soir avec des confrères journalistes, nous analysons les sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux grands thèmes sont au menu de notre débat, à savoir adoption par l'Assemblée nationale du budget 2012, un budget revu à la baisse contrairement à ce que le gouvernement avait présenté. Toujours à l'Assemblée nationale, nous parlerons des recommandations des députés sur le rapport annuel d'évaluation du processus électoral présenté par la CENI. Notre deuxième et dernier thème portera lui sur le lancement des nouveaux billets à valeur faciale adaptée depuis lundi dernier. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Benoît Kombéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Kelly.
Alain Botoko, photographe reporter. Bonsoir Alain.
Bonsoir Kelly.
Et Dona Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Bonsoir Dona.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les confrères qui sont avec vous au studio.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Alors comme d'habitude, avant d'aborder les thèmes retenus pour vous ce soir, voyons comment les journaux quinois les ont abordés et analysés. La revue de presse avec vous, Alain Irung.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le projet de budget 2012. L'Avenir renseigne que moyennant les recommandations de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement l'a adopté. En décriant l'irréalisme du budget 2012, indique la tempête des tropiques, la Commission ECOFIN donne raison à l'opposition. Selon le rapporteur de cette commission de l'Assemblée nationale, explique le journal, un écart négatif se dégage des prévisions des dépenses budgétaires et ce, après un examen approfondi du projet de budget présenté par le gouvernement Matata. Le journal fait remarquer que cette commission rejoint donc les députés de l'opposition qui avaient relevé ces lacunes lors des discussions en plénière. Rapport de la CENI à l'Assemblée nationale, le Phare s'intéresse aussi à ce sujet et titre « Vérité des urnes, Ngoï Mulunda craque ». Le confrère rapporte que le point qui a le plus électrisé la salle du congrès concernait la révélation faite par ce ministre de Dieu, révélation selon laquelle les chiffres livrés par le cardinal Monseigneur lui aurait été communiqué par un haut fonctionnaire de la MONUSCO. Ngoï Mulunda a déploré le silence des Nations Unies face à la lettre qu'il leur a adressée à ce sujet. C'est ainsi que Forum des As signe débat autour de la vérité des urnes. Ngoï Mulunda éclabousse la MONUSCO et Monsengo. Bras de fer MONUSCO-CENI, Madnoj Mounoubaï accuse Ngoï Mulunda, titre l'Avenir. Un véritable bras de fer vient à galop opposer deux institutions dont le pays a pourtant besoin. Chacune en ce qui la concerne, au point que Ngoï Mulunda et Madnoj Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO, se tirent à bout portant. Et pour clore ce chapitre, contrairement au précédent quotidien, la prospérité trouve que la société civile et l'opposition ont été déjouées car à la CENI, Daniel Ngoï Mulunda n'est plus tombé. Parlons à présent du lancement des nouvelles coupures à valeur faciale adaptée. Le palmarès indique, comme promis, les trois nouveaux billets de banque mis en circulation. Forum des As tire la sonnette d'alarme, gare à la démonétisation de fait des petites coupures. Et le confrère de poursuivre qu'en même temps qu'ils encouragent l'initiative de l'Institut congolais d'émission, certains observateurs pensent que la mise en circulation de ces nouveaux billets doit être accompagnée d'une politique monétaire efficace.
Merci Alain Roux pour cette revue de presse. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité, c'est par exemple la situation sécuritaire au Nord Kivu qui reste volatile. Il y a aussi la polémique sur la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Benoît Kombéré, un mot par rapport à la situation sécuritaire au Nord Kivu qui reste volatile.
Absolument, c'est le cas de le dire. Volatile, c'est même un faible mot. La situation est tendue, les combats se poursuivent, il semble que Bunagana et même Jomba seraient entre les mains des mutins, ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout. Et par rapport à la francophonie, on a entendu des voix. Et cette fois-là, d'un Africain, le président Alpha Condé, qui émet des réserves quant à la participation de certaines têtes couronnées, compte tenu des élections qui se sont passées pas dans des très bonnes conditions ici dans notre pays.
Pas très bon signe.
Pas très bon signe, effectivement.
Alain Botoko, photographe reporter, comment vous vous réagissez à cette polémique autour de la tenue du 14e sommet de la francophonie?
Kelly, vous savez, tout se règle ici-bas. On a conseillé au comité qui organisait les élections, la CENI, qu'il fallait qu'ils organisent les élections comme il se doit. Et alors, les gains qu'on devait tirer, c'est qu'on devait être respecté par tout le monde. Les élections ont été ce qu'elles ont été, et les conséquences, nous les vivons. Il n'y a aucun seul pays au monde qui peut accepter que les élections se passent dans le chaos comme ça s'est passé ici chez nous. Et Hollande et les autres ne réclament qu'un peu de correction dans ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le respect aux droits de l'homme. Il y a aussi la justice qui ne fait pas son travail. Et la gouvernance, d'une façon générale, ne marche pas au pays. Et ça, ce sont des réclamations claires, nettes, que nos autorités devaient prendre au sérieux et analyser au lieu de passer dans des télévisions, dans des radios, en train d'annoncer les choses qui n'existent pas.
Merci Alain Botoko. Donna Moussema, vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu, c'est au Sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans ta province?
Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt là de la guerre à l'est du pays. L'actualité est dominée par deux faits ici. D'abord, cette guerre. Il y a cette semaine la société civile du Sud Kivu, à l'occurrence de notre société civile, qui a organisé une marche de soutien au FRDC. La marche avait pour but de dire non à la guerre et oui à la paix. Et une centaine de personnes a préparé cette marche. On a déposé des mémorandums au gouvernorat de la province, mais aussi à la 10e région militaire, parce que pour les habitants de Bukavu notamment, trop c'est trop, piquer ça un peu. Alors pour le deuxième sujet d'actualité, c'est un sujet politique, c'est une motion de défiance en gestation contre le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshijambo-Roya. La motion est initiée par une affaire des 19 députés sur 36. Vous voyez, c'est déjà la majorité. Alors, une motion qui ne fait pas, somme toute, l'unanimité, même au sein de la population et des forces vives de la province du Sud Kivu. Ces forces vives estiment qu'il s'agirait d'une façon là, pure et simple, de mettre la province du Sud Kivu en péril pendant cette période de troubles, d'insécurité où toutes les institutions devraient, en principe, parler le même langage. Les députés qui s'opposent aussi à cette motion en gestation estime que l'initiation des motions contre les gouverneurs à succession au Sud Kivu, c'est devenu un peu comme une maladie à pathologie mercantiliste, étant donné que les mêmes députés ont fait déjà partir de d'autres gouverneurs au cours de ce mandat. Celui-ci, s'il partait, serait donc le troisième, ce qui n'est pas bien pour la province du Sud Kivu. Les Sud Kivuciens qui n'ont pas bénéficié des lois et des édits importants de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu estime que le paradoxe est vraiment éloquent quand tous les trois gouverneurs sont tous issus de la même famille politique, la majorité, aussi bien que les députés aussi qui sont de la majorité, mais ils ne parlent pas le même langage. Alors, ça fait un sujet d'actualité ici à Bukavu.
Merci, Donna Moussema. Un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est le 10e anniversaire de la Cour pénale internationale. On va placer justement par rapport au bilan du travail de cette Cour, Benoît Kambéré. Quel bilan vous dressez du travail de la CPI 10 ans après sa mise en place?
10 ans après, le bilan est plutôt maigre et surtout discutable. 10 ans après, tous les détenus qui sont à la haie, ce sont des Africains. J'allais dire des Congolais, un seul qui n'est pas Congolais là-dedans. 10 ans après, toutes les enquêtes qui ont été diligentées par la CPI, c'est dans des pays d'Afrique. 10 ans après, des millions ont été engloutis, alors que ces millions pouvaient aider les justices, notamment africaines, à se développer.
Alain Botoko.
Oui, la leçon à tirer dans le 10 ans de la CPI, c'est celle de savoir si ici au Congo nous avons une justice, oui ou non. Pourquoi plus de 60% de ceux qui sont détenus à la CPI sont des Congolais? Et alors, c'est ça la grande question qu'il faut se poser. Nous, en tant que Congolais, nous demandons qu'il y ait une justice qui soit établie dans le pays et qui juge les citoyens congolais. En fait, moi, je n'ai pas d'appréciation ou d'élément de jugement pour cette cour qui n'est pas congolais. Okay.
Merci Alain. Donna Moussema, un mot sur la CPI, sur le 10e anniversaire de la CPI.
Bon, un anniversaire, c'est toujours un anniversaire. On souhaite bon anniversaire. Mais je suis d'avis que bon, la CPI n'a pas du tout pris le travail, surtout pour les Africains, parce que comme l'ont dit les autres confrères qui sont avec nous, c'est un peu comme une cour pour les Africains. On sait ce qui se passe par exemple en Syrie. Pourquoi pas, on ne peut pas avoir aussi d'autres dirigeants importants qui sont arrêtés, notamment des Blancs dans d'autres pays, comme on a vu en Afghanistan, on a vu un peu partout. Alors on sent que c'est un peu une cour pour et peut-être contre les Africains, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais on salue quand même le souci de vouloir apporter la justice à travers le monde, à travers cette cour.
Merci, Don Moussema. Premier terme de ce soir, l'Assemblée nationale revoit à la baisse, soit 6,6, soit 9 milliards de francs congolais, le budget de la RDC pour 2012, contrairement au projet du gouvernement. Réalisme oblige, selon la majorité. L'opposition, quant à elle, redoute que ce budget ne souffre d'exécution. Comme les précédents, ce budget a été réaménagé par la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. 6,6, 9 milliards de francs congolais, soit 7 milliards de dollars, un peu moins que le projet présenté par le Premier ministre qui était de 8 milliards de dollars. La présentation du rapport de l'ECOFIN s'est faite mercredi dernier à l'hémicycle du Palais du Peuple et a suscité un débat des députés par rapport à certaines dispositions y afférentes. Le point avec vous, Jacques Molima.
Le débat est parti de la révision à la baisse de ce budget, contrairement à ce qu'avait prévu le gouvernement. L'autorité budgétaire a tout simplement voulu rester réaliste. Samuel Siméni.
Nous avons ramené le budget des différentes régies à des niveaux susceptibles d'être réalisés vers fin de cette année.
Cependant, ce budget adopté n'entre en vigueur que 6 mois après les délais constitutionnels, d'où il faut un effet rétroactif. Maître Maillot.
Le budget 2012 a connu un accroissement au titre de rémunération. Il faut payer les reliquats pour le mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai et de juin.
Pour sa part, Emery Okundji dénonce la problématique de l'exécution du budget en RDC.
Depuis 2007, tous les budgets votés, promulgués par le chef de l'État ne sont pas exécutés tels qu'adoptés au Parlement.
Les débats aussi touché la non-collaboration de certaines personnalités du gouvernement avec la commission ECOFIN dans le réaménagement du budget. C'est que Henri Thomas Lokondo.
Cela s'appelle outrage à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi moi j'ai demandé que notre président saisisse le chef de l'État et le Premier ministre pour que ces gens soient sérieusement sanctionnés, parce que c'est grave.
Notons que ce budget adopté sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, paraissant à Kinshasa, qui est l'analyse faire de ce nouveau budget revu à la baisse par l'Assemblée nationale.
Nous l'avons dit ici il y a 2 semaines que ce budget portait, il y avait des choses à redire. Et malheureusement, les faits nous donnent raison. Parce que, comme les députés l'ont, et coup de chapeau à cette commission ECOFIN pour le travail qu'elle a réalisé, quand on a gratté un peu, c'est-à-dire regardé de près, on a vu qu'il y avait des projections qui n'étaient pas acceptables, notamment dans les régies financières. Mais j'apprends qu'il y a même certains responsables de certains services, parce que rattachés à la présidence, ont refusé de se présenter à la commission, tout simplement parce qu'ils seraient rattachés à la présidence. C'est quand même assez dommage. On a appelé les gens de régie pour qu'ils disent ce qu'ils réalisent réellement. Les projections étaient exagérées, alors on a revu à la baisse un budget qui déjà était, à notre entendement, modique pour le grand pays que nous sommes. J'aurais voulu que les députés creusent davantage, que par exemple les recettes du pétrole entre en compte, que les recettes des matières précieuses entrent en compte, mais je crois que peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'en crevant, en creusant davantage et qu'on bouche les trous des détournements. Cela n'est pas arrivé. De 8 milliards, on est tombé à 7 milliards. Mais c'est
la première fois qu'on observe une chose pareille. Souvent, on revoit à la hausse les budgets que le gouvernement présente.
Absolument.
Pourquoi, selon vous, Benoît Kambere, le Premier ministre et son gouvernement ont fait des projections qui n'étaient pas acceptables et qui sont venues présenter ça à l'Assemblée nationale.
Ben, peut-être dans la précipitation, peut-être ce qui ne s'expliquerait pas. Il y a aussi le fait que, le budget était déjà à parti. On avait que à tout simplement injecter tout ça, mais ça n'a pas été fait. C'est la preuve qu'il y a des gens qui ouvrent l'œil et le bon, comme tantôt dans le commentaire de la presse à Kinshasa, ce que les députés de l'opposition avaient sonné la sonnette d'alarme, c'était donc vrai. Il fallait faire attention et ne pas faire gober aux gens n'importe quoi. Il y a le fait aussi que le Parlement actuel regorge de beaucoup d'anciens membres du gouvernement. Ils étaient regardants et c'est à l'honneur de ce Parlement qu'ils continuent sur cette lancée. Mais dans l'avenir, il faut que ce budget de misère cesse pour notre pays. On a droit à mieux que ça. Des plus petits pays que nous ont des budgets de 40 milliards, de 50 milliards. Je crois que le Congo...
Alain Boutoko, c'est vrai que le budget a été revu à la baisse par l'Assemblée nationale, mais entre-temps, certains députés restent quand même assez sceptiques quant à l'exécution même de ce budget revu à la baisse.
Tout le problème, c'est là-bas. Le sérieux que les gestionnaires de l'État devaient prendre dans la gestion de la chose publique. À que voulez-vous ? Tous les budgets des années passées reviennent, retombent sur la même faute, la même erreur qui est celle de ne pas accomplir ce que prévoient les projections. Le budget, par exemple, de l'année passée, de 2011, c'était à 51%, pour ça que c'était effectué ou réalisé. Que voulez-vous ? Les députés ne peuvent qu'avoir les mêmes craintes. Surtout que rien ne change. Vous voulez qu'il y ait un budget dans une nation qui produit, qui a une production à proche de zéro? Ce qui donne la force, ce qui donne de l'argent à l'État, c'est la production, et surtout la production agricole. Et nous produisons quoi au monde? Il faut que se poser autant de questions, en fait. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est cette légèreté. Comment un Premier ministre et son gouvernement peuvent avoir un écart dans la prévision des lignes budgétaires de 1 milliard avec le député? Qu'est-ce qui se passe au sérieux? Et il faut punir qui dans ces conditions? Alors soyons sérieux, quand on gère une nation, quand on gère un État, toutes nos populations qui sont dans le village, dans le coin et coin de la République, est-ce qu'ils sont, on tient compte de ces populations? Est-ce que ce budget, ce n'est pas seulement pour les institutions qui sont ici à Kinshasa ou quelques institutions de la province? Donc c'est la grande question qu'il faut se poser.
Alors ce budget a été adopté alors qu'il ne reste que 6 mois pour la fin de son exercice. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir,
hein? Oui, mais le problème c'est celui-là. J'ai posé des questions à celui qui présentait l'émission, à la dernière émission que nous avons eu ici. Ce budget était pour 2013 ou pour 2012. En fait, ce n'est pas clair. Quand on gère un État, on doit être conséquent avec ce qu'on est en train de faire. En fait, on fonctionnait avec les prévisions budgétaires de 2011. Mais est-ce que les réalités sont les mêmes? Ici, aujourd'hui, il y a une guerre qui est à l'Est, qui s'est déclarée. En 2011, il n'y avait pas une guerre qui était déclarée, c'était un moment de paix. Voyez un peu toutes ces conséquences, toutes ces choses réunies. Moi, il y a des doutes, dans la suite de la gestion de ce fameux budget, quoi.
Dona Moussema, comment vous analysez cette prévision à la baisse du budget 2012?
Merci. D'emblée, selon les raisons avancées par les membres de la commission Ecofil, je pense à mon niveau qu'il y a à saluer, car ils ont revu certaines dépenses à la baisse pour les conformer aux recettes, comme ils ont dit. Ça, c'est quand même saluable. Le souci, il est bon. Mais à un autre niveau, on le disait il y a 2 semaines, toujours sur les antennes de la radio Okapi, 7 milliards comme budget annuel pour environ 70 millions de Congolais. Ça me paraît vraiment insuffisant par rapport aux besoins de cette même population. Aux yeux d'un analyste, on peut penser que c'est un budget un peu honteux et fantaisiste. Si on dit par exemple qu'en Angola, en 2012 pour cette année, le budget est de 45 milliards, vous voyez la différence avec le Congo.
Il y a des armées au monde, comme par exemple l'armée française, où on dépense 47 milliards d'euros, ne fût-ce que pour la défense et la sécurité. Mais tout un peuple comme le Congo, 7 milliards, avec toutes les rubriques, ça me paraît sincèrement insuffisant par rapport à toutes les attentes de la population. Ça fait 10 mois de retard déjà, par son adoption à l'Assemblée, il doit encore être soumis au Sénat avant sa promulgation par le chef de l'État, donc vous comprenez. De plus en plus, il y a un retard qu'on accumule et beaucoup de dépenses qui seront désaffectées, qui seraient affectées, ne seront pas désaffectées dans les poches des individus. Donc, c'est mon point de vue.
Benoît Kambéré, parlons justement des attentes de la population. Est-ce que ce budget pourrait avoir un impact sur le social des Congolais?
J'en doute tout simplement parce que là, j'allais dire le slogan du social, la chanson du social des Congolais n'a jamais été une préoccupation pour malheureusement les dirigeants. On nous a parlé de l'année du social, je crois que c'était il y a 2 ans. À la fin de l'année, tout le monde s'est regardé pour se demander sur quelle planète on était, de quel social on parlait. Les salaires des fonctionnaires. Et quels fonctionnaires? Combien de gens travaillent dans notre pays? On peut se poser la question. Le social, c'est la santé. C'est vrai. Construire des hôpitaux modernes qu'on vante à longueur de journée, ça, c'est pas le social. C'est voir qu'est-ce qui se passe à l'hôpital général de Kinshasa, Mamayemo, par exemple. Il fut un moment dans ce pays, chaque territoire avait un hôpital de référence, construit de la même façon, et où il y avait des médicaments. Les écoles, je suis parent, nous continuons à prendre en charge les enseignants de nos enfants. Ce n'est pas normal. Le transport en commun, on a vu ici à Kinshasa. Pendant 3 jours, la ville était paralysée, parce que les transporteurs privés en avaient marre des tracasseries de la police. Et la ville était paralysée. Quelle est la part de ce budget qu'on a réservé pour résoudre ces problèmes? C'est vrai, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes en une année. Mais il faut une projection, il faut une vision. Je ne la vois pas. On a par contre remis l'argent au fonctionnement des institutions qui sont toujours en dépassement des budgets d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai appris que dans le huis clos, encore une fois, et chaque fois qu'il y a huis clos, c'est pour parler des émoluments de certains bons, cela s'est encore passé. Et le social de la population, on s'en balance. C'est malheureux.
À la Botoko, la population n'a rien à espérer de ce budget.
Oui, mais la population devait espérer quoi, Kelly? Oh, qui peut me dire aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est capable de nous dire combien nous sommes au Congo? La population est de combien? Et les estimations, certaines estimations parlent de plus de 70 millions de Congolais. Et quand vous prenez ce budget, vous divisez par 70 millions. Soyons honnêtes, chacun devait recevoir combien? Et il n'y a pas que ça. Regardez dans le rubrique de paiement des fonctionnaires de l'État. Ce rubrique pour l'année passée prévoyait 106 milliards de francs congolais et cette année c'est 126 000 milliards. Donc la différence est de 20 milliards. Diviser 20 milliards par plus de 500 000 fonctionnaires congolais. Donc chacun devait recevoir combien pour cette augmentation qu'ils prétendent dire, ils prétendent parler. Donc il n'y a pas. Donc la population ne se retrouvera pas maintenant. Il faut vraiment une réorganisation de la société pour que les choses rentrent dans la normale,
pour que les choses changent.
Ouais.
Restons toujours à l'Assemblée nationale où le bureau de la Chambre basse du Parlement a publié ses recommandations à la suite du rapport annuel d'évaluation du processus électoral présenté il y a quelques jours par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ces 9 recommandations visent non seulement la révision de la loi électorale, mais aussi celle portant composition et fonctionnement de la CENI. La substance de ces recommandations avec vous, Jacques-Yves Molima.
De prime abord, la recommandation du bureau de l'Assemblée nationale voudra c'est que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI soit révisée, notamment ce qui concerne la composition de son bureau. En plus, la gestion financière de la CENI devait être auditée par la Cour des comptes conformément à la loi. Et ce n'est pas tout. La loi électorale doit également être révisée, surtout en ce qui concerne le mode du scrutin et les conditions d'éligibilité. Par ailleurs, il faut également adopter les annexes à la loi électorale, cela y égard à la répartition des sièges pour les élections urbaines, municipales et locales. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques est également concernée. Et aussi, la question de la sécurisation du processus électoral doit être une priorité du gouvernement pour décourager les actes de violence. Enfin, organiser le recensement de la population congolaise dans le meilleur délai.
Donna Moussema, doit-on revoir la loi électorale aujourd'hui? Est-ce que c'est opportun?
Je pense que d'abord, les recommandations viennent après un travail d'évaluation qui a été fait, ce qui est déjà une bonne chose. Dès lors que la CENI a mis travail pour les autres prochaines étapes électorales, je pense que c'est une bonne chose. La révision de la loi électorale aujourd'hui, oui, je pense, parce qu'il y avait quand même, il y avait des alinéas qui ne cadraient pas avec la réalité. Donc, je pense que l'expérience qu'on venait de connaître avec les élections législatives et présidentielles de 20 novembre dernier prouve qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans cette loi électorale. On sait par exemple que il y avait ceux-là qui n'avaient pas diplôme par exemple d'université, mais comme ils avaient déjà géré, ils se sont présentés comme candidats et puis on les a acceptés. Donc il y a des choses qu'on peut revoir et je trouve ça opportun à ce niveau-là.
Lesquelles, par exemple, comme la restructuration du bureau de la CENI?
Bon, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le bureau, c'est vrai, c'est dit qu'il a mal travaillé, mais on ne peut pas lui donner zéro et non plus on ne peut pas lui donner 100%. Il s'agit d'un travail humain qui a des déficiences à un niveau, mais on ne peut pas aujourd'hui lui exiger vraiment la démission. Je pense que c'est un point de vue. Il faut plutôt essayer de voir là où il y a eu des failles à tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas que la CENI qui était acteur ou actrice dans l'organisation de ces élections. Il y a aussi la responsabilité du gouvernement. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections, les partis politiques. Est-ce que les partis politiques ont bien joué leur rôle? Est-ce que la société civile a aussi joué son rôle dans l'organisation de ces élections? Le gouvernement aussi, les acteurs internationaux. Voilà. Le bureau, c'est vrai, et il a fait ce qu'il a fait, mais on ne peut pas trop vite là lui exiger la démission, parce que le problème n'est pas au niveau du bureau, le problème c'est aussi à beaucoup de niveaux, et c'est comme ça que moi je comprends la question.
Benoît Kambéré, faut-il revoir la composition du bureau?
Restructurer, c'est une des recommandations, et tout le monde l'a décrié, c'est vrai, il faut restructurer. Restructurer ne veut pas dire que tout le monde démissionne, non. On doit restructurer et la société civile, à titre d'exemple, qui ne faisait pas partie des structures, qui ne faisait pas partie de la CENI, maintenant la société civile va intégrer le bureau selon les propositions qui ont été faites. Tout simplement parce que...
Est-ce que ça ne risque pas d'être long comme on l'a vu lors de la composition du bureau de la CENI?
La composition du bureau de la CENI a traîné tout simplement parce que c'était les politiques qui se chargeaient chacun de tirer la couverture de son côté. Et maintenant, au regard de ce qui s'est passé, on a compris pourquoi on a fait traîner les choses. Parce que la CENI, le fait que la CENI ait été mise en place en retard, c'est la faute des politiques qui avaient leurs agendas cachés. Maintenant, tout commence à remonter sous la surface. Maintenant, le Sénat avait demandé que la CENI ait en son sein la société civile. C'est l'Assemblée nationale qui avait rejeté cette proposition. Maintenant, tout le monde parle de la restructuration, même qu'il y a un projet de loi qui a été déposé par le député de l'opposition, Emery Okundji, inspiré par la société civile, n'est-ce pas ? Demande cette restructuration au regard du travail qui a été fait.
Est-ce que la présence de la société civile dans le bureau de la CENI sera un facteur pour crédibiliser les élections qui restent à venir?
Absolument. Parce qu'au moins, on n'aura pas que le regard et le glouton des politiciens. Ceux qui ont été placés, c'était des... Et encore, on a vu que on a bloqué la sortie du bureau de la CENI, tout simplement parce que l'AMP, à l'époque, ne voulait pas du professeur Njoli. Ce n'est pas normal. Il faudrait que cette commission soit indépendante, qu'elle travaille. Certes, ce n'est pas seulement la restructuration du bureau. Il faudrait, comme Donald a dit tout à l'heure, que tout le monde y donne du sien. Et le gouvernement, et le Parlement. Le Parlement a fait ses recommandations. Il faut les couler en acte maintenant. La preuve, on a suspendu le calendrier que la CENI s'était permis de publier. Tout simplement pour essayer de recadrer les choses. La loi électorale devra changer. Il faudrait que on donne les lois qui permettent aussi que les autres élections se fassent. C'est des choses qui doivent se faire au regard du gâchis que ce bureau de la CENI nous a produit, en fin de compte.
Alain Botoko, vous êtes aussi d'avis que la présence de la société civile au sein du bureau de la CENI crédibiliserait le reste du processus électoral, hein?
Mais les élections sont pour quoi? Les élections sont pour que les populations cimentent leur unité sur une personne ou sur des personnes qui doivent les diriger pour un mandat donné. Et il faut que les populations, il faut que ceux qui se donnent cet exercice soient rassurés que ceux qui vont conduire ce processus sont sérieux, sont honnêtes et ils n'ont pas de position prise. Donc c'est très clair que la société civile a une grande place. En réalité, dans beaucoup des nations, c'est les sociétés civiles qui dirigent les commissions électorales.
Mais déjà la société civile congolaise est critiquée. On dit que elle a toujours un penchant, soit elle penche vers l'opposition, soit elle penche du côté de la majorité.
Ça a toujours été ainsi. Les sociétés civiles sont multiples pour une nation. Mais les hommes honnêtes, les hommes réputés honnêtes sont toujours décelés dans toutes les sociétés. Ça, c'est un acquis. Il peut être de tel penchant ou de tel autre, mais au moins l'honnêteté devait caractériser celui qui devait diriger une commission électorale soi-disant indépendante. Comme la nôtre.
Deuxième et dernier terme de ce soir, lancement depuis lundi dernier, des nouveaux billets à valeur faciale adaptés par la Banque Centrale du Congo. Les nouvelles coupures à valeur faciale élevées ou adaptées sont mises en circulation depuis lundi par la Banque Centrale du Congo, mais sur terrain, la population n'est toujours pas encore en possession de ces billets, pour cause les banques commerciales, du moins la majorité, ne servent pas encore ces billets à leurs clients. La Banque Centrale du Congo confirme la rareté constatée des nouveaux billets mis en circulation depuis lundi. Cette institution financière explique que cette situation était prévue et que les choses ne changeraient que progressivement. Le directeur général chargé de la politique monétaire et des opérations à la Banque Centrale du Congo appelle la population à stopper la spéculation autour des échanges monétaires. On écoute Jean-Louis Kaembe au micro de Donna Madimba.
La vérité, c'est que nous, au niveau de la Banque Centrale, on a rationné la sortie de ces billets. On est en train de faire sortir avec beaucoup de prudence, selon une certaine programmation. Donc, les banques ne peuvent pas sortir tout ce qu'ils ont en caisse. Elles les font graduellement et elles sont en train de les rationner. Donc, de donner quelques échantillons de manière à ce qu'elles puissent contenter tout le monde. Et de toute façon, les premières émissions sont pour contenter tout le monde graduellement. D'ailleurs, c'est moi qu'on a aimé plus parce que ma crainte, c'est que on a émis plus au mois de juillet. Les mois qui suivent, on va émettre moins. Donc, ma crainte, c'est que, qu'il y ait des gens qui mettent un peu plus de temps avant de toucher ces billets. Les banques ont reçu des instructions qu'il faut des éventails. On sert vraiment tout l'éventail. Elles ne peuvent pas concentrer les paiements sous les grosses coupures.
Donna Moussema, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Comment la population de Bukavu a accueilli le lancement de nouveaux billets? Est-ce qu'ils sont déjà en circulation?
Ok, merci beaucoup. La population de Bukavu est un peu sceptique face à l'arrivée de ces billets parce que d'abord, elle n'a pas encore vu ces billets. À plus ou moins 9%. En tout cas, les billets ne sont pas présents dans la circulation. Même chez les cambistes, difficilement, on ne sait pas les voir. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes n'ont pas encore vu ces billets. Seulement quelques personnes rares, je ne sais pas de quelle obédience, peuvent avoir ces billets. Et les personnes qui ont les billets font l'objet de curiosité parce que les gens voudraient contempler un peu ces billets. Donc jusque-là, on ne sait pas dire si ça attire l'engouement. C'est apparemment un non-événement jusque-là. Et encore qu'on va se souvenir qu'en 1993, il y avait encore l'émission des nouveaux billets sur le marché. Ici, les billets étaient mal accueillis parce que ça avait fait vraiment une inflation terrible de plus ou moins 23 000%. Il y avait des billets qu'on appelait IOT. Alors, la population ici pense que la même expérience risque d'être rééditée. Alors, on est un peu froid, on ne voit pas les billets, on ne sait pas, ça sera comment. Les prix ont commencé à galoper, ça fait bientôt un mois, les prix de l'essence, des denrées alimentaires. Mais c'est pas à cause de ces billets ou grâce à ces billets, mais on est un peu sceptique, on ne les voit pas, on ne les connaît pas encore, on attend. Ce n'est pas un événement jusque-là.
Alain Botoko, je rappelle que vous êtes photographe reporter. Comment vous avez accueilli le lancement de ces nouveaux billets lundi déjà sur toute l'étendue de la RDC?
T'as l'inquiétude.
Pourquoi inquiétude?
Oui, je m'explique. C'est parce que ces billets vont circuler dans des banques, comme le dit le directeur lui-même, il venait de les dire. Et le jour au lendemain, nous voyons ces billets dans les mains de certaines personnes. On ne sait pas qui sont, de quelle obédience, de quelle partie ou quelle obédience. Et le jour au lendemain, on dit non, on a émis un peu, et ces billets, on va continuer à les émettre petite quantité. Là, là, ça décourage et ça met de l'inquiétude. Je m'explique aussi par ce qui se vit dans la vie quotidienne. Dans tous nos villages, il y a le billet de 20 cents, 10 cents, voire même 5 cents qui circulent. Mais ces billets ont été démonétisés ici à Kinshasa par qui? Pourquoi ces billets ne circulent pas? C'est parce que il y a de gros billets qui avalent toutes ces petites coupures, tous ces petits billets. Et c'est la même chose qui va se produire. Regardez.
Vous avez peur que les billets de 50 francs puissent disparaître? 50 francs ou 100 francs?
Ils vont disparaître de même. Madame, aujourd'hui, on peut comprimer encore les gens, on peut comprimer tout l'argent dans des banques, on peut gérer tout. Après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, ça va craquer. La population congolaise ne va pas se retrouver.
Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, par exemple à Kinshasa. Certains Congolais hésitent toujours à consommer ces nouveaux billets.
Absolument. Chat échaudé craint même l'eau froide. Parce que ces billets ont une histoire. Vous pouvez vous imaginer, j'ai vu un billet, moi j'ai eu l'occasion de voir un billet hier dans un taxi ici à Kinshasa. Ces billets datent d'il y a 8 ans. Ces billets sont stockés à la Banque centrale. Pourquoi on ne les a pas sortis depuis tout ce temps? Il fut un moment où on a dit que ces billets étaient destinés à alimenter ou plutôt à arroser la campagne électorale de 2006 déjà. Mais on a hésité, on a bloqué. Il y a eu des réunions où on a dit ces billets ne sortent pas, ces billets ne sortent pas, jusqu'à ce que finalement, en 2012, on les lance en circulation. Pourquoi on les a gardés? Tout à l'heure, Alain a dit, les grosses coupures chassent les petites. Maintenant, est-ce que à Kinshasa, où le billet le plus bas est le billet de 50 francs, est-ce qu'il y a des denrées qui coûtent moins de 50 francs? Tout s'est aligné par rapport à 50 francs. Même si à l'intérieur, il semble que le 20 francs et les 10 francs continuent à circuler, dans certains coins reculés. Mais les gens sont sceptiques. On a vu les billets des millions qu'on avait à l'époque, les dégâts que ça a fait. Les gens sont sceptiques. Même les cambistes, ils se disent non. En attendant, ils continuent à servir les anciennes coupures, mais les autres arrivent à valeur faciale élevée. Tout à l'heure,
adapté selon la Banque centrale.
Adapté à quoi? Adapté au nouveau prix qui commence déjà. Parce que les gens, les commerçants, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des imbéciles, ils ont commencé à faire l'anticipation.
Donc il y a à craindre.
Il y a à craindre.
Dona Moussema, un dernier mot, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. La population doit-elle toujours rester sceptique quant à l'utilisation, l'acceptation de ce nouveau billet, ou bien elle est obligée d'accepter ça?
Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir, ma présence dans cette émission de Radio Okapi. Mais je pense que la monnaie C'est parmi les symboles de la fierté nationale. Il est donc question que le gouvernement congolais ou la Banque centrale puisse d'abord commencer par aimer ces nouveaux billets, puisse aussi commencer par l'accompagner, les accompagner, les protéger, les faire accepter. Ainsi, tout le monde, la population, pourra aussi se l'approprier par la suite comme symbole de fierté nationale. Qu'est-ce qu'il faut à mon niveau? Je pense qu'il faudrait que les différents acteurs puissent appliquer sur les mécanismes traditionnels de lutte contre l'inflation, peut-être essayer un peu de contrôler la quantité d'émissions et des billets à émettre sur le marché, mais pas thésauriser par exemple de nouveaux billets par les acteurs politiques et commerciaux, mais laisser peut-être à la Banque centrale de faire bien son travail. On va se souvenir qu'à un moment donné, à l'époque de Mobutu, on savait que le chef de l'État pouvait facilement appeler le directeur de la banque, lui dire non, écoutez, produisez, fabriquez autant de millions, et puis de suite. Donc, on pense que c'est des choses comme ça qu'il faut éviter avec cette nouvelle monnaie qu'on a mise sur le marché.
Merci.
Mais à part ça, il y a aussi un aspect patriotique très important. C'est-à-dire, il faut apprendre à préférer la monnaie locale au détriment de la monnaie étrangère, notamment les euros, les dollars. Et l'exemple doit provenir d'en haut.
Merci, Donna Moussema. La Boutouko, en guise de conclusion.
Mais c'est comme Donna vient de dire, nous sommes sous un protectorat de la communauté internationale où nous sommes les membres de l'ONU qui sont autonomes et indépendants. C'est ça la grande question. Pourquoi toutes les monnaies du monde circulent au Congo? Et quand toutes les monnaies circulent au Congo, vous pensez que notre monnaie aura de la valeur?
La monnaie russe ne circule pas au Congo.
Non, toutes les monnaies du monde.
Benoît Kambéré, vous en disiez conclusion.
Ben, écoutez, touchons du bois. Espérons que la banque centrale et surtout les politiques vont encadrer la sortie de ces billets qui, on ne le dira jamais assez, traînent dans les coffres de la banque et peut-être ailleurs depuis très longtemps. Il faut faire attention et très attention. Il faut qu'on encadre la circulation de ces billets à valeur faciale élevée, ou plutôt adaptée comme la Banque centrale le dit.
Merci Benoît Kambéré, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Botoko, photographe, reporter, à Donna Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, et à Benoît Kambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Merci également à Alain Hung, qui est à la réalisation, à la technique, Willem Lungamba. Moi, c'est Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon week-end à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.